saviez-vous qu'il est tout à fait banal de rêver de la gauche? Non, parce que pour un peu, vous pourriez vous croire original, mais je vous le dis tout de suite, il n'y a pas besoin d'avoir de téléphone, ou d'avoir Twitter, ou même d'être invité de la matinale. C'est tout à fait banal. Allez faire un tour sur n'importe quel dictionnaire d'interprétation des rêves. Il est écrit noir sur blanc que la gauche est un rêve récurrent et très important. J'en veux pour preuve l'accroche de l'entrée gauche, où il est écrit « Si en rêve, vous ne pouvez pas choisir entre la gauche et la droite, cela signifie que vous ne pouvez pas décider entre votre impulsivité ou votre instinct. » C'est absolument passionnant. Je continue. Rêver de sa gauche, de sa main gauche, de son pied gauche ou simplement du côté gauche est un excellent signe de chance et de protection dans la vie. Un peu plus loin, rouler à gauche dans votre songe prédit que vos affaires seront bientôt prospères, je le savais. Rêver de gauche annonce une protection mystérieuse et secrète. Là, c'est un petit peu plus nébuleux, plus difficile de se projeter. Rêver de la direction gauche symbolise votre inconscient et les pensées que vous refoulez, ainsi que vos émotions, pourquoi pas. Rêver que vous servez de votre main gauche alors que vous êtes droitier, signifie que vous pensez être rejeté d'un groupe dans lequel vous souhaitez entrer. Alors là, Thomas Legrand n'aurait pas dit mieux. Plus inquiétant, le côté gauche est lié au passé. Encore plus inquiétant, le côté gauche représente tout ce qui est sombre et faible. Et enfin, tout à fait terrifiant, il est écrit noir sur blanc, si vous rêvez de gauche, vous pouvez jouer ces chiffres 14-43.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui s'adonne volontiers aux rêves et à la rêverie. Et pourquoi pas sur la gauche, tiens. Après tout, il a écrit un livre qui s'appelle Rêverie de gauche. Écrivain, philosophe, médiologue, mais aussi ancien conseiller de François Mitterrand. Il pense le monde et notre civilisation depuis plus d'un demi-siècle. Éclat de rire, son nouveau livre vient de paraître. C'est un jaillissement joyeux de digressions aux allures d'aphorismes, un condensé de sagesse et de malice qui se conjugue à tous les temps. L'occasion en or de faire un point Régis. Bonjour Régis Debray.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Où en êtes-vous de vos rêveries de gauche, tiens?
Écoutez, vous savez qu'il y a deux hémisphères dans le cerveau, hein. Le cérébral est de gauche et le sensoriel est de droite. Et que plus vous vieillissez, plus les sensations, les souvenirs physiques remontent. Alors oui, je vais pas vous inquiéter. Je fais du 70-30, si vous voulez. Hein, je sais pas si c'est convenable pour France Inter d'avoir 30% qui sont pas très orthodoxes.
En tout cas, vous me réjouissez. Il y a 10 ans, à la veille d'une autre élection présidentielle, vous écriviez donc ce livre, Rêverie de gauche, Régis Debray. Dans quel état d'esprit est-ce que vous étiez à l'époque vis-à-vis de la gauche, justement?
Oh, bah, j'y croyais encore. Je pensais qu'on pouvait encore infléchir, mais bon, vous savez, j'ai peur que la réalité soit de droite. C'est pourquoi il faut rêver, hein, précisément, pour pas devenir esclave de la réalité.
Ça veut dire que la gauche serait toujours du côté du rêve et de la rêverie?
Non, elle peut être du côté de la volonté aussi, et je dirais même de l'héroïsme, du stoïcisme, en tout cas. La gauche, ça exige à la fois du cerveau, mais du muscle. Et honnêtement, vous me faites parler d'un sujet qui n'est plus le mien, vraiment.
Mais c'est passionnant. Que s'est-il passé, à votre avis? Vous êtes aussi un penseur de l'époque, Régis Debray, pour que cette gauche soit si affaiblie?
Écoutez, moi, je ne suis pas politologue. J'ai quitté l'univers politique depuis bien longtemps. Oui, depuis effectivement 10 ans, 20 ans. Je dirais pas avoir fait le tour de la question, on serait prétentieux. Mais honnêtement, j'ai d'autres sujets, à la fois plus historiques, plus personnels. La conjoncture m'intéresse assez peu. Et, excusez-moi, il y a un moment dans la vie où on peut, je dirais pas se retirer sur son avant, hein, mais devenir spectateur. Voilà. Alors, comme au théâtre.
Est-ce que vous l'êtes vraiment? Voilà, Régis Debray, ce que vous écrivez dans votre livre Éclat de rire, deux choses menacent une société. Le chef et l'absence de chef. On va et vient entre ces deux inconvénients, chacun se présentant comme le remède de l'autre. Pour l'instant, chez nous, c'est l'éclipse qui fait souci. Elle peut donner de vilaines tentations. À quoi vous pensez?
Oh bah, effectivement, comme on est dans une société, fragmentaire, il peut y avoir une tentation totalitaire. C'est-à-dire que, si vous voulez, pour parler vulgairement, quand tout fout le camp, quand tout se décompose, il peut y avoir des nostalgies, d'une sorte de retour à une verticalité autoritaire, doctrinale et réactionnaire. Voilà, donc il y a une sorte de, si vous voulez, nous ne sommes plus dans le totalitaire, nous sommes dans le fragmentaire, et donc il y a des gens qui veulent un peu recomposer manu militari un ensemble cohérent.
Alors
c'est dangereux.
C'est assez passionnant. À quel genre de chef est-ce que vous aspirez, vous ?
Oh, écoutez, je crois que le chef est un mal nécessaire dans le collectif, mais qu'il faut, dans son intimité, dans sa solitude, il faut non pas se passer de chef, mais en avoir beaucoup, en avoir plusieurs, et donc ne pas se donner complètement à telle ou telle idéologie ou à telle ou telle option. Je dis pas que on devient sceptique avec l'âge, mais on prend du recul, si vous voulez. Et donc, y a un certain nombre de, je dirais, de passions sectaires qui vous abandonnent d'elles-mêmes. D'ailleurs, le travail se fait tout seul. Vous n'y êtes quasiment pour rien.
Et puis, aussi, on se souvient.
Il n'y a eu qu'un vainqueur le 10 mai 1981, c'est l'espoir. Puisse-t-il devenir la chose de France la mieux partagée? Pour cela, j'avancerai sans jamais me lasser sur le chemin du pluralisme. Confrontation des différences dans le respect d'autrui. Président de tous les Français, je veux les rassembler pour les grandes causes qui nous attendent et créer en toutes circonstances les conditions d'une véritable communauté nationale.
François Mitterrand, Régis Debray, le 21 mai 1980, lors de sa cérémonie d'investiture, ce discours, c'est vous qui l'avez écrit et c'est vous qui avez demandé à l'entendre ce matin.
Oui, parce que j'aime bien la nostalgie. Vous savez, la nostalgie, contrairement à ce que les gens croient, la nostalgie est révolutionnaire. La nostalgie, c'est ce qui fait avancer, figurez-vous.
Et vous êtes nostalgique de quoi ?
Je suis nostalgique, d'abord, d'un moment de rassemblement, de réunion, aussi d'un moment où il y avait de l'avenir, si vous voulez, n'est-ce pas ? D'un moment où on croyait savoir vers où aller. En gros, pour... Quand j'y repense, il y avait toujours cette recherche, si vous voulez, cette recherche d'une troisième voie entre le fric d'un côté et le knout de l'autre, c'est-à-dire entre la droite et une certaine gauche un peu totalisante, si vous voulez. Et puis cette troisième voie n'a pas été trouvée, nous sommes dans le fric et la frime.
Vous vous souvenez du jour où vous l'avez écrit, ce discours ?
Oui, écoutez, j'en ai écrit un certain nom, mais j'ai découvert ensuite que ça portait un nom anglais, speechwriter, mais moi je le voyais pas du tout comme ça, je le faisais de bon cœur, et d'ailleurs, vous savez, François Mitterrand était un homme de lettres, qui savait prendre du recul et parfois jongler avec les mots ou quelques clins d'œil ici et là, ça lui faisait plaisir. Donc il y avait une petite connivence de ce côté-là.
Une connivence peut-être autour de l'espoir, puisque c'est l'objet de l'extrait que j'ai choisi. De quels espoirs étiez-vous empli en 1981, Régis Debray ?
Ah, je pensais que la France pouvait, si vous voulez, échapper à l'enfermement entre deux conformismes, le conformisme du capital d'un côté et le conformisme du social de l'autre, et que on pouvait, comme on dit, trouver la fameuse troisième voie.
Et 40
et puis,
ans plus tard,
on l'a pas trouvé.
Précisément 40 ans plus tard, qu'est-ce qui vous donne encore espoir ? Peut-on encore avoir de l'espoir ?
Mais pourquoi voulez-vous qu'on ait toujours de l'espoir ? Moi,
ah bah non. Je vous pose la question.
Moi, je suis pour le joyeux désespoir. Je suis pour une sorte de pessimisme ironique, plein d'allant, qui peut être fraternel, mais qui, ce passe d'utopie, si vous voulez. Je m'excuse, hein, je vous déçois beaucoup, mais vous recevez une sorte de vieux con, donc c'est normal. C'est normal que vous soyez un peu déçu, vous êtes plein de jeunesse, plein d'espoir.
Je suis pas déçu, Régis Debray. J'allais rebondir, justement, vous écrivez, on perd son allant en perdant ses illusions. L'instinct vital est là, heureusement, peu importe après quoi, mais ne cessons pas de courir. Ça, c'est encore un extrait de vos éclats de rire. Après quoi avez-vous l'impression de courir, tiens?
Je dirais peut-être courir après la vérité, tout simplement. Pas la vérité avec un grand V. Courir pour fuir l'hypocrisie, les pensées toutes faites, les conformismes. Peut-être courir après soi-même. Mais en tout cas, courir après ce qui n'est plus dans la course, si vous voulez. C'est-à-dire courir après une vision... je dirais pas désabusé, mais en tout cas un peu réaliste des choses. C'est pas une vision triste, hein. D'ailleurs, ce livre, je crois, n'est pas du tout fait pour faire pleurer, il est fait pour faire rire.
Il s'appelle Éclat de rire.
C'est un rire tout de même qui peut faire penser à la fameuse définition de l'humour, la politesse du désespoir. On peut rire de soi, il faut rire de soi d'abord pour pas rire des autres.
Vous vous définissez parfois comme un réactionnaire de progrès.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire, tiens?
Écoutez, d'abord je constate que toutes les révolutions sont des réactions, c'est-à-dire des retours à un état antérieur, idyllique par exemple. En 89, on a voulu refaire la République romaine en France. En 1848, on a voulu refaire 93. En 1871, refaire 48. Donc c'est pourquoi ce sont seulement les gens qui ont une histoire en tête qui peuvent avoir des projets d'avenir. Hein. Aujourd'hui, il n'y a plus d'histoire dans les têtes, hein. On vit dans l'actualité, dans le court terme, et donc je dirais que manque de profondeur de champ, donc manque d'ambition. Voilà, mais vous savez, le champ politique n'est plus le mien depuis quelque temps. Je vois que vous êtes vous-même encore plein de... peut-être plein d'espoir, mais d'abord... J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. On peut survivre au désespoir.
Ah.
C'est pas forcément triste, le désespoir.
Vous savez qu'il y en a une qui survit au désespoir. Vous la connaissez sans doute, Régis. C'est évidemment la culture et son actualité qui patine, qui patine, qui patine. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 13 décembre?
Now, how in the hell could that happen, I ask myself.
D'après le roman,
je suis fait de chair et de sang, mais je ne suis pas humain. Je ne suis plus humain depuis 200 ans.
Les vampires orphelins, la romancière américaine Anne Rice s'est éteinte samedi. Elle avait 80 ans, écrivaine aux millions de livres vendus. Elle s'était faite connaître dès 1976 grâce au roman Entretien avec un vampire, dont elle avait signé le scénario et l'adaptation, avec Brad Pitt, Tom Cruise et la très jeune Kirsten Dunst. Native de la Nouvelle-Orléans, bercée de spiritualité, Anne Rice avait contribué à renouveler de livre en livre la grandeur du roman gothique. Elle était une immense dame de la littérature, l'autrice d'une quarantaine d'ouvrages. Respect.
Sans mémoire, je crois qu'on n'est rien.
Carte mémoire, l'Institut de France a lancé hier le site France Mémoire, une interface documentaire pensée pour célébrer les personnalités et les événements marquants de l'histoire de France. Hier, par exemple, on célébrait le double centenaire de la naissance de Gustave Flaubert. À travers des dossiers fouillés, le site propose un calendrier d'une cinquantaine de commémorations au programme pour 2022, les 400 ans de la naissance de Molière, le centenaire de la mort de Proust ou encore les 150 ans du tableau Impression Soleil Levant de Claude Monet. Fenêtre sur cour, comme chaque année, Arte vient de mettre en ligne l'intégralité des courts-métrages présélectionnés pour les Césars, dont la cérémonie se tiendra le 22 février prochain, pour découvrir qui succédera au film « Qu'importe si les bêtes meurent » de Sofia Alaoui, récompensé l'année dernière. On se plonge gratuitement dans une sélection éclectique de 15 œuvres, parmi lesquelles « Millennials » porté par William Lakeville, ou « I'm afraid to forget your face » de Sameh Alla, déjà lauréate de la Palme d'Or du court-métrage à Cannes en 2020.
Por tu maldito amor.
Et enfin, il était surnommé le Sinatra des Mariachi. Le crooner mexicain idole de l'Amérique latine, Vicente Fernandez, est mort hier à l'âge de 81 ans. Chanteur tout en sombrero, moustache et bottes de serpent, il était une icône de la chanson populaire, racontant en musique les vicissitudes de l'amour à grand renfort de trompette et de guitare. Interprète sensible, macho, assumé, il avait vendu près de 70 millions de disques et remporté 3 Grammys au cours d'une carrière de plus de 50 ans. Salut. Et Régis Debray, invité de Boomerang ce matin pour Éclat de rire, une suite de réflexions écrites sur un ton délibérément enjoué. Qu'est-ce qui vous rend si gai, Régis? Il faut nous le dire tout de suite.
Écoutez, qu'est-ce qui me rend si gai? D'abord, l'envie de pas être triste.
C'est pas mal.
Non, et l'envie de pas me plaindre. Et une certaine exaspération devant une sorte de morosité ambiante. Je crois qu'il faut avoir le courage d'être gay, tout simplement.
Vous dites qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à rire. C'est d'ailleurs comme ça que se termine votre livre. Apprendre à rire, ça passe par quoi ?
Bah écoutez, je dirais qu'il faut avoir beaucoup pleuré hein, pour apprendre à rire. Ça va pas de soi de rire. Je trouve que le rire est une récompense, mais c'est au bout du chemin. Parce qu'avant, il y a tout de même des choses un peu tristes à surmonter.
Qu'est-ce qui vous a fait pleurer, vous ?
Qu'est-ce qui m'a fait pleurer ? Écoutez, beaucoup de choses dans la vie, personnelle, politique, sociale, dans la vie de mon pays. Parfois, je suis triste. J'ai été triste de voir la France démissionner sur beaucoup de points. J'étais triste de la voir devenir un pays banal. J'étais triste de l'avoir renoncé à sa vocation qui était d'être l'emmerdeuse du monde. Elle est devenue simplement un enfant sage parmi 27 petits pays derrière le grand chef américain. Moi, ça ne me réjouit pas, si vous voulez, j'avais une autre idée de mon pays. Mais enfin, bref, écoutez... Il y a dans l'histoire, comme ça, des mouvements d'amplitude, de montée, de descente. Il faut qu'un individu puisse s'en détacher et inventer, si j'ose dire, son propre bonheur. C'est difficile, mais ça peut se faire.
Vous savez, j'ai l'impression que ce livre, il est quand même dans le prolongement de vos mémoires d'un siècle à l'autre, paru l'année dernière, une réflexion sur le temps qui passe et les effets de l'âge. Quel regard est-ce que vous portez, par exemple, sur cette jeunesse, aujourd'hui, qui ne supporte plus d'entendre les gens de votre génération? Vous parliez de vieux cons tout à l'heure, aussi révolutionnaire fût-il, d'ailleurs.
Vous voulez dire, est-ce que les jeunes peuvent encore comprendre les gens comme moi? C'est ça?
Pourquoi pas?
Bah, évidemment non. La réponse, c'est évident. Je crois qu'on n'est pas du même monde. Vous savez, on a enjambé deux millénaires. Hein? Quelqu'un qui est né en 1940, il est né dans un autre monde. Dans un autre système de valeurs. Donc aujourd'hui, il y a des choses formidables. Il y a eu des révolutions qui n'étaient pas du tout prévues. Hein. Nous, les révolutionnaires, on était à côté de la plaque, en tout cas de cette plaque-là, puisqu'au fond, quelles ont été les deux révolutions majeures? La féminine, d'un côté, et la numérique de l'autre. Hein. La numérique, ça touche en ville le monde à la fois de la politique et de la culture, et la révolution féminine ou féministe, ça a changé, je dirais, presque 2000 ans d'histoire. Donc c'est fondamental. Donc on a vu des choses très intéressantes, mais par ailleurs on a aussi vu l'écroulement d'un certain nombre d'illusions, l'écroulement du monde catholique, l'écroulement du monde communiste,
vous dites...
l'écroulement du progressisme, la remontée d'un certain subconscient fascisant. Enfin, tout ça n'est pas formidable, mais on a eu cette chance formidable. Dans le laps d'une vie, voir deux mondes, le monde d'avant et le monde d'après.
Bah, parlez...
C'est extraordinaire, moi je suis assez content. Enfin, parfois je n'en reviens pas, mais je me dis qu'il y a beaucoup de travail pour comprendre ce qui se passe.
Mais c'est émouvant de vous entendre dire « nous révolutionnaires », parce que je vais vous dire, hein, moi...
Nous ex-révolutionnaires,
bah oui, mais ça me passionne,
hein,
parce
pas
que
du tout...
Ce jeune homme, Régis Debray, que vous avez été à 25 ans, normalien, agrégé de philosophie, qui du jour au lendemain, pour partir à Cuba et suivre Che Guevara en Bolivie... Moi, je vais vous dire, ce jeune homme, il m'a toujours fasciné. Ce départ, qu'est-ce qui l'a motivé à l'époque? Vous vous souvenez?
Écoutez, le sentiment que qu'il fallait, oui, renouveler l'état de choses, que en Amérique latine se jouait une partie importante, la contestation de l'empire de l'Ouest, disons, et que c'était une bataille qui nous concernait tous, voilà. C'était une vision assez optimiste, je le reconnais, mais que je ne regrette absolument pas.
Jamais. Pour autant, vous ne vous êtes jamais considéré comme un intellectuel engagé. D'ailleurs, cette expression, elle vous hérisse le poil, Régis Debray. Vous la considérez comme l'ultime calomnie.
Non, moi...
Intellectuel engagé, va.
Je réclame le droit de me dégager. Je réclame le droit d'écouter des chansons, de dire des bêtises, de me promener dans la rue et de ne pas être engagé du matin au soir.
Êtes-vous,
bref,
êtes-vous pour autant
le
intellectuel
droit, le droit de respirer. Hein?
Êtes-vous pour autant intellectuel?
Non, j'aimerais ne pas l'être.
Mais pourquoi?
Parce que, je vais vous dire... un intellectuel, c'est un peu trop cérébral pour moi. J'aime qu'il y ait du sensoriel, donc qu'il y ait de l'écriture, de l'artistique. Parce qu'il y a deux hémisphères, tout de même. Hein.
On y revient, ouais. La gauche et la droite.
Il y a la gauche et la droite, mais attendez, ça fait qu'un seul cerveau, tout ça. Donc ça fait qu'un seul bonhomme. Donc je vous dis... Je suis pour le 70-30. Mais chacun fait comme il peut, hein. Voilà.
Et entre le rire et les larmes, vous êtes 70-30 aussi, Régis Debray?
Non. Il faut voir dans le rire des larmes surmontées. Il faut voir dans le rire une façon de rire de ses larmes, si vous voulez. De pas les prendre trop au sérieux, quoi.
Ça, je trouve ça beau. Et on va en reparler, évidemment, de rire, de larmes, juste après celle de Wendy Renee en 1964. Vous êtes sur France Inter avec Régis Debray. Vous écoutez Boomerang, on est lundi.
Boomerang, Augustin Trapp. Trapnar.
Je vais vous dire, ce qui frappe sont ses yeux. Ses yeux d'un bleu profond qui donne envie de s'y perdre, quelque part entre le donjon et la gorgone. Le cheveu bien peigné, l'air alerte et gourmand, toujours sur le qui-vive, prêt à se délecter d'un bon mot, calembour, trait d'esprit ou contrepétri. Avec sa veste qu'il dit rouge ce matin, mais qui pour moi est tout à fait sépia, on avait toute l'émission. Et dans cette description, l'écrivain Régis Debray, invité de Boomerang pour Éclat de rire. Un livre que vous avez écrit après un AVC, cet accident. Qu'est-ce qu'il a changé dans le rapport que vous entreteniez avec les mots, avec le langage, Régis?
Ah ben écoutez, il a tout changé parce qu'il a fait naître les petits riens, je dirais. Vous savez que quand le chat est parti, les souris dansent. Et vous avez une sorte dans la tête de débandade qui est une libération aussi. C'est-à-dire que vous acceptez de ne plus être un seul tout, vous acceptez d'être en morceaux, et au fond, vous devenez un peu compliqué, c'est vrai, mais tout ce qui est simple est faux, hein, disait Valérie, je crois. Et donc, si vous voulez, oui, vous faites des brèves de comptoir, c'est possible, mais parfois, le moins que rien fait du plus.
Est-ce qu'il arrive que les mots vous manquent ?
Ah oui, les mots me manquent dans la conversation. Ils me manquent moins à l'écriture, parce que il y a un délai. Mais là, comme vous le sentez bien, vos questions me déconcertent. Je cherche mes mots, je réponds à côté, mais demain je peux revenir, j'aurai des bonnes réponses.
Elle vous déconcerte, mais vous les aimez bien, parce que vous avez ce petit sourire dans l'œil, quand même, qui frise quand je les pose.
Oui, parce que, j'aime bien votre émission, j'aime bien votre façon un peu latérale de prendre les choses de biais comme ça. Le cortex préfrontal n'est plus ce qu'il était, si vous voulez.
Régis Debray.
Mais alors, je ne m'en plains pas, hein, parce que on devient minimaliste, mais peut-être que le maximum est à minimis, hein, au fond.
Je vous trouve quand même plutôt alerte, et je pense que les auditrices et les auditeurs de France Inter en témoigneront. Pourquoi est-ce que vous écrivez aujourd'hui, à 80 printemps passés, vous qui disiez tout à l'heure avoir renoncé à avoir de l'influence sur ceux et celles qui vous lisent et qui vous écoutent?
Oui. Là, écoutez, j'ai essayé d'être un intellectuel, c'est-à-dire un homme d'influence, mais ça n'a pas marché, hein, du tout.
Au moins, vous l'assumez.
Ah bah c'est oui, là, tellement je l'assume complètement, pas. Je me suis fait une raison, et à la limite, j'en suis presque content.
Et fier.
Pourquoi? Parce que si vous voulez être un homme d'influence, vous devez être un homme sous influence. C'est-à-dire un homme qui répond du tac au tac à toutes les questions que tout le monde se pose, et un homme qui épouse complètement l'idéologie de son temps. Donc vous êtes dans le bain, mais vous vous noyez. Et donc, au fond, quand vous vous sortez d'un peu de ce marigot d'urgence, d'apostrophe, d'engueulade, etc., oui, vous prenez du recul. Et donc, vous cessez d'être un combattant, comme on dit, un combattant de la plume ou de la voix. Vous cessez d'être un intellectuel. Alors, je dis pas que vous montez sur votre Aventin pour regarder les choses de haut, mais vous les regardez de loin, c'est différent.
À propos de prendre du recul, vous nous avez écrit un texte ce matin, c'est un cadeau. Un texte inédit, Régis Debray, j'aimerais bien que vous nous le lisiez, si vous le voulez bien.
Qui prend de l'âge, seul avantage, prend du recul. Il déserte les salles d'attente et les agences de voyage. Certes, l'herbe est toujours plus verte dans le champ d'à côté et l'expectative met du suspense dans le train-train. Mais vivre le présent au présent n'a pas que des inconvénients. On cogite moins, mais on ressent plus. L'éventuel est cérébral, mais l'actuel est au bout des doigts, dans les narines ou la rétine. Et avec les années, les jouissances utopiques s'effacent devant celles plus pimentées, plus colorées des sensations. D'où vient, par parenthèse, qu'un tempérament dit de gauche risque souvent de pencher à droite. Souvenez-vous que Mitterrand a passé son dernier jour à l'Élysée avec Dormesson. En tout cas, les souvenirs remontent, si vous voulez. Ils remontent par les pores et par les papilles. Les programmes, eux, viennent de la tête. Et c'est sans doute de naissance. On a le verbe à l'imparfait ou bien au futur. On est antiquaire ou bien programmateur. C'est un risque. C'est un risque politique qui peut vous faire rejoindre au crépuscule le vieux camp du regret. Moi, je préfère la solution du moindre mal. avec des allers-retours, si vous voulez, entre les deux penchants, un panachage gauche-droite, toujours un peu suspect. Mais, disons qu'on voit avec l'âge se décomposer en douce nos rôles de composition. Plus besoin de faire semblant, ça s'en va par petits bouts, le hiatus ne fait plus honte. On peut même finir par prendre une certaine débandade intérieure pour un signe de vitalité. À croiser malicieusement les étiquettes pour dérouter la police des mœurs. S'afficher gaulliste d'extrême gauche, par exemple. Hein, en même temps commode, hein, à chacun sa vérité pour marier la carpe et le lapin. Non, plutôt le facétieux bonheur comprend à être guelfe au gibelin et gibelin au guelfe. Disons qu'on perd en assurance, mais on gagne en franchise.
Ce que vous nous dites, Régis Debray, c'est assez réjouissant, c'est qu'avec l'âge aussi, on devient sans filtre, si j'ai bien compris.
Oui, c'est vrai qu'il y a une certaine forme d'impudeur. On n'a plus honte d'être ridicule. Et puis, si vous voulez, comme on est moins sensible à la critique sociale, publique, on n'a pas peur d'être mis au banc de l'humanité, hein, comme souvent. Bah, je crois que on apprend finalement à être soi-même, ce qui exige un certain courage tout de même, ou une certaine inconscience. Disons que vieillir, c'est peut-être devenir inconscient, donc vrai, peut-être.
Ridicule, vous l'avez beaucoup pété ?
Bon, on est toujours le ridicule de quelqu'un, hein. On est toujours le ridicule de celui qui ne croit pas ce que vous croyez. Et donc, il faut, non, ça, je n'ai plus peur d'être ridicule du tout, non, vraiment. J'aurais peur presque d'être du juste milieu, si vous voulez. J'aurais peur de faire la part des choses, j'aurais peur d'être prudent. J'aurais peur presque de devenir quelqu'un de bien, voyez-vous. Mais je reste tout de même un mauvais bougre, ça devrait vous rassurer, non ?
Ah bah ça m'enchante surtout. Bon. Qu'est-ce qu'il y a de pire en vous, Régis Debray ?
Ah bah ce qu'il y a de pire en moi, c'est peut-être... ce qu'il y a de pire en moi, ce que j'ai eu de pire, disons, c'est la volonté de plaire. C'est la volonté, je dirais, de d'être dans le ton. Voilà. Honnêtement, le plaisir aristocratique de déplaire, c'est quelque chose qui vient avec là et que moi je voudrais démocratiser, si vous voulez.
À qui souhaitez-vous déplaire ?
Oh ben, je voudrais déplaire, je veux dire, à tous les gens qui ont un peu trop de cases toutes faites dans la tête. Je voudrais déplaire à tous les gens qui n'ont pas appris à faire des zigzags, des pas de côté. Peut-être qu'ils n'ont pas appris à être vrais. Et c'est vrai qu'être vrai, c'est difficile, parce que c'est casse-gueule, on risque de fâcher. Peut-être même de se fâcher avec soi-même, d'ailleurs. Bref, il faut prendre des risques. Au fond, peut-être que... Je vais vous dire un truc bizarre, mais qui me vient en vous écoutant. Peut-être que... c'est peut-être en vieillissant qu'on ose prendre des risques. Et peut-être que... On se reproche d'avoir été trop prudent dans sa jeunesse. On devient imprudent, voyez-vous, je vous dis des tas de bêtises, vous m'en voudrez beaucoup, mais c'est comme ça.
Je voudrais vous remercier pour cette imprudence ce matin, Régis Debray. Merci d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que vos éclats de rire très réussis sont publiés chez Gallimard.